Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Renault envisage de poursuivre de nouveau Carlos Ghosn. Ce conseil d'administration a révélé hier que l'ancien patron avait effectué des dépenses suspectes à hauteur de 11 millions d'euros. Explication à suivre.
À Portsmouth, vétérans et dirigeants mondiaux sont réunis pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement. Nous irons sur place dans ce journal.
Vous entendrez aussi le reportage du correspondant de RFI au Soudan. Les Soudanais veulent poursuivre leur révolution malgré la violente répression militaire.
La CGT a lancé une action de groupe pour faire cesser ce qu'ils estiment être une discrimination envers les femmes, discrimination au sein de la Caisse d'épargne Île-de-France. Les femmes gagneraient en moyenne 18% de moins que les hommes.
Il y a aussi des bonnes nouvelles pour l'économie française, mais l'exécutif peine à en profiter. Nous verrons pourquoi dans le billet politique de Frédéric Seyss, ce sera après ce journal. 11 millions d'euros de dépenses suspectes supplémentaires. L'audit interne mené conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale commune RNBV basée aux Pays-Bas. Cet audit a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes de l'argent utilisé par Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'Alliance automobile franco-japonaise. C'est le conseil d'administration de Renault qui s'en est fait écho hier soir. Carlos Ghosn est déjà, rappelons-le, poursuivi au Japon et en France pour fraude et pour des transactions suspecte. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Hakim, d'où viennent ces 11 millions d'euros utilisés pour des dépenses personnelles?
Alors il y a tout d'abord cette fête très fastueuse au château de Versailles, officiellement pour l'anniversaire de l'alliance Renault-Nissan, mais qui en fait aurait servi à des fins personnelles pour l'anniversaire de Carlos Ghosn, le patron de Nissan, rien que ça. Il y a aussi des frais d'utilisation d'avions exceptionnels, plus de 5 millions d'euros. Alors si prendre le jet privé, eh bien cela est normal pour Carlos Ghosn, car cela faisait partie de ses déplacements professionnels, notamment entre Paris, Amsterdam et Tokyo. En revanche, l'enquête montre que de grandes sommes auraient été versées sous la forme de dons, notamment à son ancienne école à Beyrouth. Beyrouth dont, il faut le rappeler, le Liban, Carlos Ghosn détient la nationalité de ce pays car il a 3 passeports brésiliens mais aussi français. L'enquête révèle également que Carlos Ghosn aurait versé des dons à l'ancienne école de son fils et l'enquête pointe aussi des personnalités connues, bien connues en France, à commencer par la garde des Sceaux, Rachida Dati, qui aurait perçu entre 600 000 et 900 000 euros pour des frais d'honoraires, officiellement pour du conseil juridique, ce que l'enquête montre que c'est tout à fait le contraire, ce que réfute son avocat qui dénonce là une manipulation à quelques mois des élections municipales.
Effectivement, une enquête est ouverte concernant l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. Alors, Hakim, l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a utilisé pour utiliser ces 11 millions d'euros, une filiale aux Pays-Bas, la holding RNBV. À quoi correspond-elle?
Ah oui, cette filiale créée en 2001 est en fait, comme le disent les syndicats, un peu la boîte noire de Renault. Car il faut le savoir, les Pays-Bas mettent en place une fiscalité très avantageuse pour les entreprises. Il y a d'ailleurs de très grands groupes français comme Renault, mais aussi Total, Airbus, Altran, qui ont des filiales, voire même certaines fois des sièges sociaux pour payer moins d'impôts, avec notamment un mécanisme qu'on appelle le rolling. Qu'est-ce que c'est le rolling? Eh bien, les entreprises peuvent négocier directement avec les impôts néerlandais la somme qu'ils percevront pendant 4 à 5 ans. L'impôt sur la société est aussi moins important qu'en France, 2 fois moins. Alors même si cela est plus important qu'en Irlande, réputé pour sa fiscalité, cela reste très avantageux. Côté judiciaire, cette fois, Renault indique que si la somme n'est pas rendue par Carlos Ghosn, le constructeur entamera une action en justice pour se faire rembourser, Clara.
Merci beaucoup Hakim Kasmi pour ces précisions matinales. Il y a presque 75 ans, les Alliés débarquaient en Normandie pour libérer l'Europe de l'occupation nazie. C'était le 6 juin 44. En ce 5 juin, mercredi, les célébrations débutent déjà en Angleterre, à Portsmouth, sur la côte sud du pays, d'où sont en fait partis les premiers soldats pour rejoindre les plages normandes. La reine Elisabeth II, Donald Trump et Emmanuel Macron seront réunis aujourd'hui à Portsmouth aux côtés de 300 vétérans. Présents également les premiers ministres Theresa May, Justin Trudeau, Scott Morrison. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour France Culture. Antoine, ce rassemblement se fera ce matin sous très 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 haute sécurité.
Oui, avec des kilomètres de grillage face à la mer, tout autour de la plage. L'armée a d'ailleurs déjà déposé des blocs de béton pour couper les routes et mis en place des points de contrôle pour fouiller les sacs et vérifier les identités. Les habitants des alentours ont reçu des consignes. Pas question d'utiliser des drones ce matin. Pas question non plus de prendre des photos au téléobjectif depuis les fenêtres des maisons ou des immeubles pour ne pas que les services de sécurité les confondent avec des fusils à lunettes. Mesure exceptionnelle donc pour protéger la reine. reine, le prince Charles et la quinzaine de chefs d'État. Parmi eux, Emmanuel Macron lira tout à l'heure la lettre d'Henri Ferté, jeune résistant de 16 ans, fusillé par les nazis. Theresa May sera là aussi avec des représentants européens, australiens, canadiens et évidemment, vous l'avez dit, Donald Trump. Le président des États-Unis est attendu de pied ferme avec deux rassemblements pour protester contre la politique américaine dans le centre-ville et près de la plage. Les vétérans, eux, veulent se concentrer sur le souvenir. 300 d'entre eux monteront ce soir à bord du MV Boudica pour traverser la Manche en direction de la Normandie avec des conditions météo bien plus clémentes qu'il y a 75 ans lorsqu'ils étaient partis au milieu d'une tempête force 8. Il y aura aussi des chants, des extraits, des discours de Churchill et Eisenhower, des coups de canon et le survol de la côte par des Spitfire de la Seconde Guerre mondiale et des Red Arrows, l'équivalent anglais de la patrouille de France.
Merci beaucoup Antoine Gignoux en direct ce matin de Portsmouth. Les cérémonies de commémoration vont donc se poursuivre jusqu'à demain, jusqu'au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Plus de 70 ans après la guerre, par ailleurs, nous apprenons que d'anciens volontaires engagés auprès des nazis pendant la guerre reçoivent toujours des pensions allemandes, des Français notamment, ou des personnes vivant en France. En ce début d'année, Paris avait demandé des explications à Berlin. L'État français en a eu quelques-unes, des précisions en tout cas. C'est ce que nous disait sur France Culture hier soir la secrétaire d'État auprès de la ministre aux armées, Geneviève Darrieussecq.
J'ai eu des informations de la part des autorités allemandes, effectivement, 54 bénéficiaires de ces pensions d'invalidité. Et dans ces 54 bénéficiaires, il y a 27 militaires blessés de guerre, dont 9 Français et 18 qui sont des Allemands vivant en France. Et dans ces 27 blessés de guerre, il y a effectivement 4, on va dire, personnes qui me posent question, parce que je n'ai bien sûr pas leur nom, et ça c'est logique, mais les unités combattantes dans lesquelles ils étaient. C'était des unités SS. Donc moi je veux avoir des renseignements complémentaires, clairs, de la part des autorités allemandes et pas que des renseignements administratifs, je voudrais qu'il y ait une parole politique allemande.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Enfin notons que le parquet de Paris tente de retrouver d'éventuels responsables encore en vie de la rafle du Veldiv. Une enquête est ouverte pour crimes contre l'humanité en 1943. Pendant la guerre, 20 000 Marseillais avaient été persécutés et transférés dans des camps de rétention.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coquerel, le bilan de la répression militaire à Khartoum au Soudan, lundi passe à 60 morts.
Un bilan de la dispersion meurtrière des manifestants qui étaient rassemblés devant le quartier général de l'armée soudanaise à Khartoum. 60 morts donc au moins. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu publier un texte condamnant ces violences. La Chine, appuyée par la Russie, ayant bloqué le communiqué. Sur place pendant ce temps, la tension reste grande. Les Soudanais ne renoncent pas. Même blessés, ils attendent de pouvoir relancer le soulèvement populaire. C'est ce qu'a constaté Sébastien Némette.
Soigné dans un hôpital de Khartoum, Mahmoud Abdallah a le bras en écharpe et des traces de coups. Il a vu certains de ses amis mourir. Pourtant, l'étudiant de 25 ans ne perd pas espoir, au contraire.
La révolution vient juste d'être lancée. Ce qui s'est passé depuis 2 mois n'était rien. C'est maintenant que la révolte commence. Ils nous ont donné plus de volonté pour repartir à zéro.
Le bain de sang du sit-in a détruit un symbole mondialement connu de la révolution. Il a aussi mis un coup d'arrêt à l'élan populaire qui avait fait chuter Omar el-Béchir. Pour autant, selon Mohamed Ibrahim Ahmed, blessé à la tête et à la main, le mouvement reprendra tôt ou tard.
Le sit-in donnait de la puissance à la révolution, donc c'était une menace pour eux. Ils cherchent à nous affaiblir et nous décourager, mais ça va nous renforcer. Pour l'instant, on doit se soigner puis se réorganiser. En tout cas, plus ils essaieront de nous briser, plus on sera unis et déterminés.
Les communications ont en partie été coupées. Difficile pour l'instant de relancer le mouvement. Sohra Mafi, manifestante de la première heure, attend un signal de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation à la tête de la révolution.
La révolution est toujours là, mais les gens ne savent pas quoi faire. Internet est coupé, on est désorganisé. J'attends que quelqu'un montre la voie car les gens sont prêts à retourner manifester. On n'a plus rien à perdre, nous n'avons plus peur.
L'APS a lancé des messages appelant à la manifestation, la grève et la désobéissance civile, mais les militaires occupent les rues de Khartoum et brisent toute envie de résistance, pour l'instant en tout cas.
Sébastien Nemeth, correspondant de RFI à Khartoum pour France Culture. Les armes françaises plaisent à l'étranger. Les exportations d'armement françaises ont été quasiment multipliées par 3 l'année dernière par rapport à 2017. Premier destinataire, le Qatar, la Belgique, l'Arabie Saoudite. Tout cela selon un rapport du ministère français des Armées qui a été rendu public hier. Les commandes en 2018 ont représenté plus de 9 milliards d'euros, Olivier Poujade.
L'un des meilleurs chiffres de ces 20 dernières années, se félicite la ministre des Armées Florence Parly. Ce bond de 30% par rapport à 2017 consolide la place de la France dans le top 5 des plus gros exportateurs d'armes dans le monde. Des ventes notamment dopées par les commandes de Rafale et de 28 hélicoptères de manœuvre et d'assaut Caïman signés par le Qatar. Avec ce seul pays, la France augmente ses ventes de 117%. Les affaires se portent bien donc et la France diversifie sa clientèle vers l'Europe. L'an dernier, 25% des armes ont été vendues à des pays européens contre 10% les années précédentes. Ce succès mondial soulève évidemment une interrogation, le fait que l'essentiel des acheteurs soit considéré comme des régimes répressifs comme l'Égypte, ou pour le cœur de la clientèle située au Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, accusés de crimes de guerre pour leur implication dans le conflit yéménite. La France a toujours assuré que les armes livrées aux Saoudiens n'étaient pas utilisées contre des civils dans cette guerre, l'autorisation des ventes étant soumise à un processus interministériel rigoureux d'après le gouvernement français.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, annonce une convention nationale au sein du parti Les Républicains. Elle doit se dérouler en octobre prochain. Avant cela, des conventions régionales, départementales et locales vont débuter dans les jours qui viennent pour préparer cette grande réunion d'automne. La précarité de l'emploi augmente de façon inquiétante en France, et ce depuis 2014. Voici le résultat d'une enquête de l'Observatoire sur les inégalités. Le taux de précarité, soit la proportion d'actifs en CDD, intérim ou en apprentissage, ce taux de précarité est passé de 12% en 2007 à 13,6% 10 ans plus tard. Et justement, quand un emploi est stable, encore faut-il qu'il soit juste. C'est une première en France sur le terrain des discriminations entre les femmes et les hommes. La CGT lance une action de groupe pour que cessent les inégalités de salaire à la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Les femmes y gagneraient en moyenne 18% de moins que les hommes, 34% de moins dans les catégories supérieures, Annabelle Grelier.
700 euros en moyenne, voilà ce que les femmes toucheraient en moins par mois que les hommes à la Caisse d'épargne Île-de-France. Faux, rétorque la direction, si l'on compare à emploi équivalent, les femmes seraient même un petit peu mieux payées.
Mais bien sûr, parce que ça fait des années qu'on est dans le même poste. C'est ça, elles n'ont jamais de promotion.
Valérie Lefebvre-Haussmann de la Fédération CGT Banque Assurance.
Les femmes ont beaucoup plus d'ancienneté dans le poste qu'un homme, donc forcément... on va être payé plus. Encore heureux qu'on ait un peu des évolutions salariales. Sauf que on stagne au niveau de notre carrière. Les hommes, eux, vont rester dans une même classification que quelques années et après vont avoir des promotions, alors que nous, non.
Si la CGT s'appuie sur le bilan social 2018 de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, la direction, elle, met en avant l'index d'égalité salariale. Indicateur que les entreprises de plus de 1000 salariés doivent obligatoirement publier depuis mars dernier. Indicateur qui a donné à la Caisse d'épargne un score plutôt honorable de 94 points sur 100.
Alors au passage, on ne sait pas comment ils ont calculé, on ne sait pas sur quoi ils se sont basés. Pour l'écart salarial entre les femmes et les hommes, ils ont 39 points sur 40. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence de salaire, sauf que ce n'est pas le cas.
Frapper un grand coup et faire un exemple, la CGT s'est dite déterminée à faire respecter la loi. Sophie Binet, chargée de l'égalité femmes-hommes à la CGT.
Nous avons décidé de dire stop et de tirer le signal d'alarme en disant qu'aujourd'hui, cette discrimination systématique que subissent les femmes, elle n'est plus tolérable, plus acceptable, et que systématiquement, la CGT accompagnera les femmes en justice. S'il n'y a que ça pour faire respecter leurs droits, eh bien, on ira.
L'action de groupe, cette nouvelle procédure, prévue par la loi de 2016, peut déboucher sur une assignation devant le tribunal de grande instance si l'entreprise ne s'est pas, dans les 6 mois, conformée à la loi. Elle permet à un juge de demander de réparer le préjudice subi par toutes les personnes intégrées dans le groupe concerné.
Le procès Balkany se poursuit. Le tribunal de Paris a abordé hier le volet corruption reproché au maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, mais aussi à l'autre principal prévenu de ce procès, l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al-Jaber. La justice cherche à savoir s'il y a pu y avoir des contreparties au cours d'un important projet immobilier prévu à Levallois. Désormais, tout sépare les deux hommes. Ils nient l'un et l'autre être le véritable propriétaire d'une villa à Marrakech, Florence Turme. Entre les deux prévenus, tout le passif du projet avorté des tours de Levallois. Mais en 2008, l'homme d'affaires saoudien apparaît comme le sauveur d'un ensemble hôtelier et commercial de plus de 120 000 m², 243 millions d'euros de droits à construire, abandonné par le groupe espagnol Fadesa en pleine crise des subprimes. La lune de miel sera de courte durée. Très vite, Mohamed Al-Jaber demande des reports de paiement pour les échéances prévues. A-t-il donné des contreparties pour obtenir ces délais? Jean-Pierre Aubry, le bras droit de Patrick Balkany, s'en défend. Juste une montre de plongée à 15 000 euros qu'il n'a jamais portée et un avion privé mis à disposition de Patrick Balkany. Je pense que c'est dans la culture de ces gens-là, ajoute Jean-Pierre Aubry. Moi, l'avion, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne suis pas un fanat du Maroc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soupire à son tour Patrick Balkany. Il ne fallait pas vexer le chèque. Il disait toujours « Please, take my plane ». Je ne pouvais pas refuser systématiquement. Mais si vous avez emprunté son avion, c'est une ou deux fois sans contrepartie, questionne Hervé Temim, l'avocat de Mohamed Al-Jaber. Oui, tout à fait. Considérez-vous avoir été corrompu par Monsieur Al-Jaber, insiste l'avocat. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Patrick Balkany s'énerve, sans paraître comprendre que la question rejoint pourtant aussi ses propres intérêts sur le délit de corruption. La rancœur est visiblement trop tenace et le message revient à chaque audience. C'est le plus mauvais payeur de la terre, répète Patrick Balkany, et j'attends toujours qu'il nous règle ce qu'il nous doit.
Ce compte rendu était signé Florence Sturm. Le temps de ce mercredi en France, marqué par un passage pluvieux du sud-ouest au nord, le soleil finalement ne va briller toute la journée que près de la Méditerranée. Ce matin, comptez 15 degrés à Nantes et Bayonne, 16 à Lille et Paris, 24 degrés à Besançon et déjà 27 à Lyon et à Marseille.